C'est le thème de la justice qui revient beaucoup aujourd'hui. Alors, dans l'épître de Saint Jean, qu'il faut vraiment lire posément, on tourne beaucoup autour de la justice, d'être juste. Jésus est juste. Et il y a l'opposition entre la justice et le péché, la justice et le diable. La justice qui suppose qu'on soit né de Dieu, que l'on naisse de Dieu. Et dès lors, on ne peut pas pécher, donc on ne peut pas être injuste. Si on ne pratique pas la justice, on n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si c'est limpide pour vous. Ce qui me concerne, c'était un peu difficile de comprendre ce qu'était cette question de justice. Pourquoi employer ce mot-là qui se réfère plutôt a priori à une règle, donc à quelque chose qui ne supporte pas d'excentricité, si je puis dire, de sortir du cadre. Et donc j'ai été regarder un peu ce que voulait dire le mot dikaios, qui veut donc dire juste en grec. Alors, le dikaios, parmi les sens, c'est celui qui est sans faute. Donc là, on voit bien l'opposition au péché. Mais dikaios véhicule aussi l'idée de rendre à chacun son dû. Alors, c'est régulier. Il y a bien une règle. Ce n'est pas une règle figée, c'est une règle en mouvement, parce que chaque être humain est en mouvement. Et donc, ça n'a pas l'air bien simple. Il y a l'idée derrière, dans le bailli, dans le dictionnaire bailli, il y a l'idée de remplir ses devoirs, mais aussi l'idée d'un équilibre. Vous savez peut-être que le symbole de la justice, c'est la balance. Alors la balance, on peut y voir quelque chose de dur, quoi. Il y a un poids à gauche, un poids à droite, et puis voilà. Mais on peut aussi y voir l'idée d'équilibre, précisément. Et cet équilibre s'oppose donc à la rigidité. Et nous découvrons que l'équilibre, c'est donc un esprit de justice. Alors, je trouve ça absolument fascinant, parce que ça montre que pour être juste, il faut être mu par l'Esprit Saint, en fait, pour être juste selon les vues de Dieu. D'abord, il faut humainement se poser des questions. Et se dire, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste que je fasse devant telle situation? Et puis être inspiré, précisément. Mais comment être inspiré si on ne se pose pas la question? Le curé d'Ars dit que celui qui est juste est animé par l'Esprit Saint, justement. Vous voyez, c'est très beau. Parce que c'est exactement le commentaire de Saint Jean. Je lisais ça hier et je me disais, ça c'est trop fort. Curé d'Ars fait le commentaire de la première épître de Saint Jean. Voilà, en fait, cette idée de justice, derrière le mot justice, se cache l'Esprit Saint. Et donc, ça suppose qu'on soit né de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Si on n'est pas né de Dieu, ça va être compliqué. Jésus dira à Nicodème en Jean, justement dans l'Évangile cette fois-ci, il vous faut renaître d'en haut. La justice, c'est donc un fruit du Saint-Esprit, d'une motion du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas du tout, encore une fois, rigide. Ce n'est pas l'application d'une règle qu'il n'y aurait qu'à lire. Il faut chercher. Il faut chercher. Et alors évidemment, il peut y avoir d'abord le support d'une règle. Une règle qui s'applique à des réalités vivantes. C'est pour ça que s'achève l'épître en disant quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Être juste, c'est aimer son frère. Ah ouais. Et donc là, vous vous apercevez qu'être juste, c'est donc aimer son frère, et donc vous n'auriez peut-être pas mis la justice à cet endroit-là, quoi. La justice, pour nous, ça a un côté juridique. Alors que là, Jean est en train de nous dire, la justice, ça consiste à trouver une astuce pour aimer son prochain, quand c'est difficile. Et l'astuce, c'est de l'aimer parce qu'on est né de Dieu, et donc on a une connaissance de ce qui est juste, on a une connaissance de la justice de Dieu, qui est la miséricorde. Hein, la justice de Dieu, c'est la miséricorde. Voilà, c'est la petite Thérèse dit ça, hein, il me semble que la miséricorde est le signe de la justice de Dieu. C'est sa justice. Comme ça qu'il fait justice Dieu. Donc, vous voyez, ça pose plein plein de questions en fait. Et au fond, on peut se dire, ben voilà, le seul commandement, c'est d'être juste. Puisque Jean, dans son épître, dit, celui qui n'aime pas son frère, Jésus dira, il n'y a qu'un seul commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, d'aimer son prochain comme soi-même. Ben, c'est ça être juste. C'est ça être juste. Donc nous découvrons que la justice est orientée à la relation vers Dieu, de Dieu vers nous, de nous vers le prochain. C'est ça la justice, c'est un mouvement. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout sauf quelque chose de figé. Et alors, comme par hasard, eh ben, on a l'application dans l'évangile. C'est génial quand même. Vous avez Jean-Baptiste, et il y a peut-être un truc que vous n'avez jamais remarqué, c'est la deuxième ligne de l'évangile. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait. En fait, pour bien comprendre cet évangile, celui-là en particulier, l'appel des premiers disciples en fait, ou la rencontre du Messie, il faudrait le mimer sans aucune parole. Ou si, enfin, oui, les deux, trois paroles qui sont dites, voyez, mais trois fois rien. Et on verrait Jean qui regarde Jésus aller et venir. On ne sait pas ce que fait Jésus. On ne sait pas ce que fait Jésus. Mais Jésus est là et Jean le regarde. Et Jean doit être probablement en train de se dire, c'est lui. Ouais, ça a l'air d'être lui. Et tout à coup, Jean reçoit une révélation. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Bon, j'ai dit hier, hein, il a très bien pu dire aussi, voici la parole de Dieu, puisque en syriaque, c'est le même mot, mais avec des voyelles différentes. Comme on n'a pas les voyelles dans le texte syriaque, ça règle la question. On ne sait pas quel son il a prononcé. Et je voudrais venir rapidement sur ce qui s'est passé un peu après. Alors Jésus voit qu'il le suivait. Ça, c'est un peu drôle, comme si Jésus pouvait ignorer qu'il était suivi, mais bon, c'est ce que dit Jean. En tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de regards dans cet évangile. Jean regarde Jésus, Jésus voit qu'il est suivi, les apôtres ont vu Jésus. Venez, vous verrez, ils virent. On voit beaucoup, hein. On voit beaucoup. Jésus posa lui-même son regard sur Simon. Il y a une espèce d'inclusion. Jean a posé son regard sur Jésus, Jésus pose son regard sur Simon. Il y a énormément de choses dans cet évangile. Hein. Il faudrait des heures pour le commenter. Et puis il y a la question de Jésus. Que cherchez-vous? Alors cette question, elle est assez fascinante. Quelqu'un m'a offert une traduction des quatre évangiles d'après la Vetus Syrah. Donc c'est des textes syriaques du IIe siècle. Alors ça pour moi c'est un peu une nouveauté, parce que pour moi le syriaque ça commençait avec le 5e, 4e, 5e. Et là ce sont des textes qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps dans des grottes et qui sont tout à fait authentiques, hein, il n'y a aucun problème. Et qui donne une trace des évangiles extrêmement récente par rapport à la communauté chrétienne. Donc autour de deuxième siècle. Hein. Deuxième siècle, ça veut dire 120, 130, 150, on ne sait pas très bien quoi. C'est tout de même très, très, très impressionnant. Et alors, au mot que cherchez-vous, ils ont mis une note. Et alors ils font remarquer, évidemment, ça vous l'aviez peut-être pensé, que au moment de l'arrestation de Jésus, ce sera... non, pas au moment de l'arrestation de Jésus, au moment de la résurrection, en 20-15, ce sera qui cherche? Regardez ça 2 secondes. Allez. Ou peut-être qui cherches-tu d'ailleurs? Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et cette espèce d'inclusion qui ne peut pas nous laisser indifférents. Parce qu'elle est au début de Jean et à la fin de Jean. Et donc, au début de Jean, on cherche quelque chose. Et progressivement, on va apprendre à découvrir qui est Jésus. Et c'est lui qu'on va finir par chercher. Vous voyez, tout ce mouvement, en fait, les introductions, c'est ultra important, enfin, tout le monde le sait. Voilà, là, on est dans l'introduction de Jean. Et Jésus dit, que cherchez-vous? Alors, la note poursuit, elle est assez géniale, cette note, hein. En disant ceci, cette première phrase de Jésus en Jean correspond au verset médian du Pentateuque. Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Écriture. Et qui a été repéré par les rabbins. Les rabbins, ils aiment bien les regarder, qu'est-ce qu'il y a au milieu, quel est le premier mot, quel est le dernier mot, quel est le... etc. Et alors, le milieu de l'évangile, de la Torah, c'est Lévitique 10-16. Le Lévitique, c'est pas sûr que ce soit un livre que vous lisiez tous les jours, c'est un peu... c'est pas très très facile, mais c'est extrêmement important, le Lévitique, sinon on ne comprend rien aux guérisons de Jésus. Enfin, on comprend pas grand-chose. On trouve ça, ouais, c'est génial, mais on voit pas que Jésus applique, Jésus accomplit. Et là, qu'est-ce qu'on voit en Lévitique 10-16? Alors, c'est l'histoire d'un bouc, vachement intéressant. C'est le sacrifice pour le péché. Moïse, dit le verset, s'enquit alors du bouc offert en sacrifice pour le péché. Voilà qu'on l'avait brûlé. Il s'irrita, etc. Vous pourrez aller lire ce passage. Moïse s'enquit. En hébreu, il y a écrit darosh, darash. Donc en hébreu, quand on répète un verbe, ça veut dire que c'est pas une blague, quoi. Darash, ça veut dire chercher. Madrasat, en syriaque, ça veut dire l'école. C'est le lieu où on étudie, le lieu où l'on cherche. Midrash, c'est la même racine. C'est le fait d'avoir cherché à comprendre. Il y a darash dedans. Bien. Alors, vous trouvez peut-être que c'est un peu plat, mon truc, sauf que, qu'est-ce que Jean-Baptiste vient de dire? Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et là, on tombe dans le Lévitique où on cherche l'agneau sur lequel retombaient les péchés. Et cet agneau a été brûlé. Alors, c'est le drame dans le Lévitique, parce qu'il fallait le consommer. Qu'est-ce que Jésus dira à la Passion? Tout est consommé. Et Jésus va accomplir ce bouc sur lequel les péchés étaient censés être. Le peuple mettait ses péchés sur le bouc. Et le bouc partait avec les péchés au désert. C'est exactement ce que Jésus fera. Et Jésus va mourir pour nos péchés. Et en plus, Jean précise que c'était la dixième heure. La dixième heure, c'est 4 heures de l'après-midi. Bah, c'est grosso modo l'heure à laquelle Jésus meurt, puisqu'on nous dit à partir de la neuvième heure, les ténèbres arrivèrent. Et on nous dit que les apôtres, ces deux-là, ces premiers apôtres, ces premiers disciples, pour l'instant, ce n'est pas des apôtres, c'est des disciples, ils ne sont pas envoyés. Apôtres, ça veut dire envoyés, hein. Disciples, c'est ceux qui suivent. On nous dit, les disciples, restez avec lui jusqu'à la dixième heure. Ils vont tous foutre le camp à la dixième heure au calvaire. Vous voyez, c'est comme si dans ces premières lignes, il y avait un condensé de tout ce qui va se passer. Alors moi, je trouve ça absolument phénoménal. Je n'avais jamais vu ça, évidemment. Donc ils le suivent jusque-là. Et puis, bon, je vous laisse méditer tout ça, hein, parce que c'est fou, quoi. Et puis, il y a André. André qui va voir son frère Simon. Et qu'est-ce qu'il dit, André? Nous avons trouvé le Messie. Alors ça, c'est un peu fort, parce que quand Jésus demande aux apôtres, pour vous qui suis-je, qui est-ce qui dit, tu es le Christ? Christ, ça veut dire Messie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ben, c'est Pierre qui le dit. Et apparemment, c'est André qui est le premier à reconnaître en Jésus le Messie. Jean-Baptiste n'avait pas dit, voici le Messie. Voilà, vous voyez, la richesse considérable de ces quelques lignes. L'évangile se clôt avec la parole que nous avions au début. Jésus posa son regard sur lui. Vous voyez, Jean-Baptiste a regardé Jésus, Jésus regarde Pierre. C'est le mouvement de l'Esprit Saint. Et Jésus est le juste qui accomplit toute justice. Voilà. Donc nous nous retrouvons encore avec cette justice dont parlait Jean dans l'Épître, d'aimer son prochain. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il va mourir pour chacun de nous. Il est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de mourir pour son frère. Vous voyez comment c'est pas tout à fait une règle rigide, quoi. C'est donner sa vie. Or, dans la justice en général, on donne pas trop sa vie, quoi. La justice humaine. Voilà. Donc tout ce décalage qui nous vient de l'enseignement de l'Esprit-Saint. Donc en fait, aimer son frère, c'est se dire comment je peux donner ma vie pour mon frère. Pas forcément en mourant, hein, mais donner de moi à mon frère. L'aimer, lui rendre service, passer un coup de balai. Vous voyez, je prends des trucs bêtes, je fais exprès. Ça fait une chute, ça fait beauf. Mais c'est ça, quoi. Rendre un service. C'est ça, aimer. En acte et en vérité. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse avec tout ça. Honnêtement, il y en a pour des heures, hein. Allez, bah écoutez, demain ce sera posté un peu plus tard, puisque c'est l'épiphanie et qu'il y aura donc une homélie à la messe. Voilà.